Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on poursuit encore dans notre étude dans l'Épître aux Colossiens et on va voir une condition qui définit le sauvé du non-sauvé. Celui que Dieu appelle un juste, c'est celui qui vit par la foi. Puis on va essayer de comprendre ensemble selon les Écritures pourquoi c'est si important pour le Seigneur la foi dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que d'abord la foi? Et puis pourquoi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable? Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, on va demander le secours du Seigneur, d'accord? Fait que Père, on a besoin, comme Jésus a dit, du pain qui vient d'en haut, de toi, Seigneur Jésus, ta chair et ton sang. Seigneur Dieu, nourris-nous par l'Esprit Saint, par ta parole. Ta parole est une nourriture pour notre âme. S'il vous plaît, Seigneur, illumine notre entendement, viens à notre secours afin qu'on puisse de plus en plus croître en toi pour porter du fruit afin qu'on te soit agréable, qu'on soit en bénédiction, qu'on soit ton jardin, Seigneur Dieu. Car tu dis dans ta parole que nous sommes ton œuvre. Alors on se remet entre tes mains ce matin pour que tu puisses, par ton Saint-Esprit que tu nous as accordé, croître en toi, Seigneur Dieu, mieux comprendre l'attitude que tu attends de nous, cette foi. Le juste vivra par la foi, tu nous dis. Alors merci de nous remplir de la connaissance de ta volonté sur ce sujet, de nous guider, Seigneur Dieu, et de parler à nos cœurs ce matin. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, le passage dans Colossiens, on est finalement dans cette partie où on se rappelle, Paul prend un cantique qui glorifie le Jésus-Christ comme étant l'image du Dieu invisible. En d'autres mots, maintenant, Dieu s'est donné une image pour qu'on puisse le contempler en Jésus-Christ. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes pour qu'on puisse connaître Dieu avec certitude. Donc, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et là, on le glorifie comme étant le créateur de toutes choses et dont toutes choses qui sont créées par lui lui sont destinés, trouvent la raison d'être en lui. Donc, quand on trouve Jésus-Christ, eh bien, on trouve le dépôt du trésor de la sagesse de Dieu pour de plus en plus retrouver le sens de toute chose en Christ. Deuxièmement, on a vu aussi qu'il est la tête du corps de l'Église. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas de rédemption. Mais par lui, nous sommes pardonner et racheter de nos péchés. On peut donc, on est invité à faire partie de la nouvelle création. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et donc ça, c'est vraiment le cantique des paroles certaines. Et là, Paul poursuit en disant, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, un jour, tout genou va fléchir et toute bouche va s'accorder à déclarer tous la même chose, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Certains, c'est en racheté, sauvé, que déjà on le déclare maintenant. D'autres, ça sera pour accepter leur condamnation, reconnaissant qu'ils s'étaient opposés à la volonté de Dieu et au témoignage que Dieu rendait de son Fils Jésus-Christ. Un jour, toute la création, dans le ciel comme sur la terre, va finir par fléchir le genou et confesser que Jésus-Christ est Seigneur, sans aucune distinction. Il nous est dit ici, verset 21, donc on voit que Dieu a aimé ses ennemis, nous, les rachetés, et vous, qui était autrefois étranger et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Ce qu'on a vu finalement, qu'il a pris sur lui toute notre misère, notre péché, et il a subi la juste colère de Dieu pour nous en délivrer. À tous ceux qui vont venir à lui, le Seigneur dit qu'il paye la dette. Il dit, pour vous faire le résultat de son œuvre, pour vous faire paraître devant lui saint, entièrement mis à part pour Dieu, irrépréhensible, entièrement pardonné, et sans reproche. Ça, c'est vraiment trop beau. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Ici, c'est un verset qui peut un peu nous intimider. Il dit ici, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. » J'aimerais finalement qu'on puisse revenir à une autre manière que Paul le dit lorsqu'il écrit aux Romains. Donc, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Et là, il va définir qu'est-ce qu'il entend par demeurer ferme dans cette grâce. Le deuxième verset, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Donc, on voit encore une fois, c'est quoi de persévérer, demeurer ferme, rester inébranlable dans cette grâce qui nous a été donnée. Maintenant, comment on la reçoit, cette grâce? Par la foi et non par le mérite. Et ça, c'est très important qu'on revienne là-dessus, parce que c'est facile de glisser, d'avoir peut-être cru d'abord au message de l'Évangile, que Christ est venu sauver ce qui était perdu, et tranquillement de glisser de cette grâce et de commencer à entrer dans des programmes pour mériter. Il y a un danger à ça. C'est, quand Paul écrit aux Galates, il leur dit exactement le danger dans lequel ils sont en train de tomber. Est-ce que vous avez donc commencé par l'Esprit? Vous avez cru? Tout ce que vous avez reçu, tout ce qui s'est fait chez vous, ça s'est fait sur la base de la prédication et non pas de vos œuvres. La prédication, pourquoi? Parce que finalement, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais regardez bien, on va essayer de mieux comprendre la foi parce que c'est vraiment un point important. Il y a souvent des fausses définitions ou des définitions qui ne sont pas trop justes sur la foi. Pardon. L'Écriture dit donc, le juste, c'est celui qui vit par la foi. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend? Il y a des gens qui définissent la foi comme, regardez bien l'illustration, en disant, si vous voyez quelqu'un au loin sur un chemin qui s'en vient et que vous n'avez pas à le définir trop bien, là, vous allez dire, je pense que c'est un tel. Maintenant, s'il s'approche puis commence à avoir ça commence à être un petit peu plus clair, mais il y a encore un petit peu d'incertitude, vous allez dire, je crois que c'est un tel. Et là, quand vous le voyez très près de vous et que vous savez que c'est vraiment lui, vous allez dire, OK, je sais que c'est un tel. Ça, c'est souvent le concept que les gens peuvent avoir de la foi, comme si c'était un degré de persuasion plus ou moins grande. Entre l'opinion vague, je pense que, versus je sais que, entre les deux, certains y mettent la foi, je crois que. Mais est-ce que c'est vraiment la définition que la Bible nous donne? Donc, d'autres ont dit par contre, après à dire « je pense que c'est vrai, je crois que c'est vrai et je sais que c'est vrai », bon, ne serait distingué que par un degré différent de certitude. En passant, j'ai puisé beaucoup de cette étude sur la foi qui était vraiment excellente. La plupart d'entre vous n'ont souvent entendu parler de M. Hodge, donc dans sa systématique 3e volume. Si vous voulez faire un investissement, ça vaut la peine. C'est en anglais, mais c'est vraiment bon. Et donc, il dit finalement d'autres, il cite entre autres M. William Hamilton, d'autres ont dit « Ce que je sais repose sur la raison et la logique. Ce que je crois vient d'une autorité. » Là, on commence à s'approcher un peu plus de la définition biblique de la foi. « Ce que je sais repose sur la raison et la logique. Ce que je crois repose, au fond, sur la déclaration qu'une autorité m'a faite. » On s'approche. Il dit, mais la raison elle-même doit enfin reposer sur l'autorité. Parce que comment on sait aujourd'hui? Avez-vous remarqué que Jésus dit « à moins que vous deveniez, vous soyez comme ce petit enfant » Tu sais, dans Matthieu 18, le royaume de Dieu est donné à ceux qui sont comme un petit enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier un petit enfant? Et le Seigneur nous met en garde d'être une pierre d'achoppement pour un petit enfant, ce qui peut vraiment détruire sa capacité de croître sainement. Comment? En le trompant. Le Seigneur est là-dessus extrêmement protecteur de l'enfant. Parce qu'il dit « malheur à celui qui devient une pierre d'achoppement pour un enfant. Vaut mieux pour lui de s'attacher une pierre de meule, là, tiens, et se jeter dans la mer. » Tellement c'est grave. Parce que l'enfant a quelque chose qu'on peut tranquillement perdre avec le temps. La confiance. La foi naturelle. D'abord, l'enfant, pour apprendre à raisonner. Ici, le raisonnement que M. Hodge définit, il dit « mais la raison elle-même doit enfin reposer sur l'autorité. Car les données originelles de la raison ne reposent pas sur la raison, mais sont nécessairement acceptées par la raison sur l'autorité de ce qui est au-delà d'elle-même. En d'autres mots, les bases sur lesquelles je bâtis mon raisonnement, je les ai reçues, au fond, parce qu'une autorité m'en a informé. Quand je vais à l'école ou mes parents, ils ont été une autorité qui m'ont donné les fondements sur lesquels repose mon raisonnement. À tort ou à raison, peu importe, je raisonne à partir des informations qu'on me donne et souvent je les reçois sur la base qu'une personne est une autorité. Il y a des domaines qui nous échappent. Par exemple, vous allez voir votre médecin, mais vous allez voir quelqu'un qui a une formation pour aller par sa connaissance, ce qui lui donne son autorité, de pouvoir nous prescrire, par exemple, des médicaments, une opération ou quoi que ce soit. On fait confiance. Parce que ces gens-là ont l'autorité par compétence pour nous donner finalement des informations qui vont finalement réorganiser nos vies. Ces données sont donc dans une propriété ou dans une sphère, des croyances ou des fiducies rigides. Et c'est ainsi qu'en dernier ressort, nous devons forcément admettre philosophiquement que la croyance est la condition première de la raison et non la raison le motif ultime de la croyance. Et puis là, il faut chercher finalement deux personnes, Abélard et Anselme. Un va finalement donner le témoignage en disant « si tu comprends, tu vas croire ». L'autre dit « non, si tu crois, tu vas comprendre ». Et je pense que c'est plus la deuxième qui est la source. Donc, à partir de tout le raisonnement et de la connaissance que j'ai, par exemple, tous mes amis ici, là, autour, eh bien, c'est des gens qui ont plus de compétences et donc, ils ont une autorité. Donc, quand je lis leurs travaux, leurs recherches, ils m'épargnent énormément de temps pour que je puisse finalement avoir, le recevoir en disant « ah oui, c'est vrai ». Une croyance qui va aider mon raisonnement à se bâtir sur des choses plus saines. Donc, il en va de même dans d'autres domaines, il dit, l'effet sur l'esprit produit par le témoignage humain est universellement reconnu comme la foi. Si ce témoignage est insuffisant, il n'exclut pas le doute, mais il peut être assez fort, le témoignage qu'on me donne, pour rendre tout doute impossible. Aucun homme saint d'esprit ne peut douter de l'existence de villes comme Londres ou Paris. Si vous n'êtes jamais allé à Londres ou à Paris, c'est que vous le croyez sur le témoignage de ceux qui ont été dans ces villes. Je lui ai donné cet exemple-là à plusieurs reprises, mais ça nous aide. Maintenant, moi, je ne crois plus que Paris ou Londres existent, car j'ai été à Londres et à Paris. Donc, aujourd'hui, je sais. Vous vous rappelez la petite phrase que Pierre va dire dans Jean, au chapitre 6? Après que toute la foule soit partie, les autres disciples ont quitté le Seigneur parce que son message était tellement bouleversant que tout le monde est parti. Et là, le Seigneur va regarder les 12 en disant « Et vous, vous ne voulez pas partir? » Mais il sait très bien qu'ils ne partiront pas. Et c'est là que Pierre fait cette fameuse déclaration « À qui d'autre irions-nous, toi seul et les paroles de la vie éternelle? Or nous, nous avons cru et nous avons connu, nous le savons aussi. » Donc d'abord, ils ont cru car ils ont fait confiance à ce que Jésus disait, qu'il était. Deuxièmement, ils ont fait l'expérience par les signes, les miracles, les écritures confirmant ce que Jésus était. Donc, ils ont cru. Et deuxièmement, ils ont aussi le poids de la connaissance. Ils ont expérimenté, finalement, qui est Jésus pour eux. Et c'est vrai. Mais Jésus leur rappelle que c'est lui qui les garde. Mais néanmoins, je veux juste rester sur le côté croire. Donc, d'abord, je dois faire confiance à la personne qui me donne une information ou un témoignage. Si la personne est plus ou moins crédible, eh bien, finalement, ça va être plus ou moins facile d'accepter comme vrai ce que la personne me dit. Par contre, si elle est vraiment une personne qui a un témoignage solide, alors ça casse le doute en moi et je suis obligé de leur faire confiance. Donc, il continue en disant ici, il s'agit de quelque chose qui repose sur la confiance, sur l'autorité des autres. Laquelle prise de confiance est reconnue par les philosophes, les théologiens et la masse des hommes comme une forme de foi. Donc, encore une fois, dans certains états d'esprit, la conviction d'un homme de sa réalité du futur, par exemple, tu sais, qu'est-ce qui nous donne cette espérance qu'il y a une existence après cette vie? Personne n'y a été. C'est parce que le Seigneur nous l'a dit. Et si on a confiance en lui, eh bien, finalement, on a maintenant, on est en train de réorganiser nos vies en fonction que notre vie ne s'arrêtera pas à notre mort physique, parce que finalement, le Seigneur Jésus-Christ et ses témoins qui nous ont envoyés, les apôtres, ont finalement déclaré que pour ceux qui auront mis leur confiance en Jésus-Christ et dans son œuvre, vont vivre éternellement. Même s'ils meurent, ils ne mourront pas. Donc, ça repose sur quelque chose que ma raison naturelle et mes sentiments naturels ne peuvent pas capter. Vous voyez, c'est hors de ma portée de pouvoir y croire naturellement. Je dois avoir un témoignage pour pouvoir y croire. Donc, c'est pour ça finalement que mon état futur, en passant même un athée aujourd'hui, des gens là, qui disent « Non, moi je crois pas, moi je suis scientifique », ben eux sont encore en train de dire « Ma foi qu'il n'y a rien après la mort repose sur des autorités dites scientifiques ». Mais le domaine scientifique est très compétent pour me parler de la mécanique des choses physiques, mais ils n'ont pas la compétence pour me parler des choses spirituelles et métaphysiques, au-delà de la physique. Parce que Jésus lui-même, vous rappelez quand il parlait à Nicodème, regardez le passage qui est vraiment intéressant. Le grand doute d'Israël, c'est continuellement l'idolâtrie, qui était de croire dans des divinités qui n'existent pas. C'était le grand défi d'Israël, jusqu'à la déportation à Babylone. Mais vous rappelez, quand il parle à Nicodème, il va lui dire ici, si vous ne croyez pas, pardon, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, quand est-ce qu'on n'a pas cru quand il nous a parlé des choses terrestres? Eh bien, dans tout l'Ancien Testament, les prophètes ont sans arrêt parlé des idoles comme étant des choses de néant. Vous mettez votre confiance dans du néant, c'est du mensonge. Vous avez mis votre foi dans des êtres qui ne sont pas des dieux. Donc, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Avez-vous remarqué que nos sociétés sont passées souvent de l'idolâtrie et la superstition à un monde scientifique qui nie toute réalité spirituelle maintenant? Parce que les gens se font une forme de spiritualité étrange. Un genre de vide. Tu sais, la méditation du vide. C'est pas beaucoup d'espoir là-dedans. C'est sûr que ça peut être reposant. Ça peut être très, très reposant de faire de la méditation du vide, de se calmer, de rien dire. Par contre, si vous voulez nourrir de l'espérance, il faut que ça soit un petit peu plus consistant et qu'on ait des témoins sûrs qui nous en parlent. Donc, on continue. Pardon. Paul va dire à Timothée, juste pour vous montrer le principe encore une fois, crois pour comprendre. Paul va dire à Timothée dans 2 Timothée, sa deuxième lettre, premier chapitre, verset 12, « Et c'est à cause de cela, qui est prédicateur, que je souffre ces choses. J'endure, en d'autres mots, de souffrir ces choses, mais j'en ai point honte. » Normalement, quand tu te fais attaquer, quand tu te fais détruire, quand tu te fais calomnier, écoute, c'est gênant, c'est honteux. Il dit « J'en ai point honte. » Car je sais en qui j'ai cru. Avez-vous remarqué ici? Pas simplement, je suis sûr de mes raisonnements. Non, non, je sais en qui, une personne, en Jésus-Christ. Paul a rencontré le Seigneur ressuscité. dans le chemin vers Damas, vous vous rappelez? Et dans cette foi, il a finalement bouleversé son monde. Je sais en qui j'ai cru. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et je suis persuadé de ce qu'il a cru. Ce que je crois va me définir de plus en plus ce que je peux être persuadé. Il dit, « Car je sais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Sa foi, et qui produit en lui de l'assurance, ne reposait pas sur des raisonnements philosophiques, mais plutôt sur sa foi en une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, basé sur le témoignage des Écritures, le témoignage de Dieu lui-même et du Saint-Esprit. Et Paul a eu cette expérience absolument incroyable, parce que pour être apôtre, il fallait être un témoin de la résurrection, du ressuscité, car toute notre foi repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas être tous témoins au même niveau. L'apôtre ici, il devait avoir fait cette rencontre avec le ressuscité. Et toute l'Église primitive dépendait du témoignage de ceux qui ont vu le Seigneur ressuscité. Et ça, pour nous, c'est très important. Donc, comme il nous dit ici, M. toujours Hamilton, dit, cité par M. Hodge, à proprement parler, nous ne connaissons que le réel et le présent, et toute connaissance réelle est une connaissance immédiate, sans médiation. Donc, j'essaie de comprendre les choses directement. Ce que l'on dit être connu de manière médiate, donc par un médiateur, une médiation, n'est en vérité pas connu, mais seulement cru. Par exemple, quand on me parle du passé où j'étais pas, donc je suis obligé de faire confiance à ceux qui ont l'autorité de m'en parler. Quand je lis, par exemple, des historiens, eh bien, j'essaie de voir est-ce qu'ils ont... Ce qu'on attend d'un historien, ben c'est de l'objectivité. Et on sait que l'objectivité pure, ben c'est assez rare. Tout le monde donne un peu son opinion, son point de vue. Mais néanmoins, ce que je connais du passé, je suis obligé de le recevoir sur la base d'un média. Tandis que si je regarde mon verre d'eau ici, eh bien, puisque je le vois et je le touche, ben ça n'a pas besoin de passer par une médiation. J'ai une connaissance immédiate de mon verre d'eau. Vous comprenez? Donc, quand on parle d'immédiat, ce n'est pas juste dans le temps, c'est sans médiation. Et quand on parle quelque chose par média, par exemple, en ce moment, vous êtes en train de me voir par un média. Quand on est ensemble à l'église et que vous me voyez directement, c'est immédiat. Donc, juste une petite définition aussi là-dessus. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'une foi biblique? Pas vous étirer le temps trop longtemps. D'abord, la définition qu'on a, c'est Hébreux 11.1 qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres mots, le mot grec que Paul ça dit, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas c'est qui, hypostasis. Donc, c'est aussi un mot pour parler de fermeté, de fondement. Donc, la foi, c'est un fondement. Mais pour qu'il soit un fondement, ça dépend toujours de la crédibilité du témoin, de celui qui m'en parle. Comme Paul le rappelle, il dit, si on reçoit le témoignage des hommes, à plus forte raison celui de Dieu. Donc, au sens strict et spécial du mot, comme discriminer de la connaissance ou de l'opinion, ce n'est pas une connaissance qu'on fabrique ou une opinion qu'on a personnellement, la foi signifie la croyance en des choses non vues sur la base du témoignage. Là, vous allez voir le nombre de fois qu'on parle de témoignage dans la parole de Dieu. Par témoignage, cependant, ne signifie pas simplement l'affirmation d'un témoin intelligent. Il existe d'autres méthodes pour témoigner que l'affirmation. Par exemple, un sceau est une forme de témoignage. Donnez un exemple. Vous vous rappelez dernièrement, malheureusement, il y a un fêlé qui tripait sur la police, la gendarmerie royale en Nouvelle-Écosse. Et finalement, le gars, il s'est même fait une voiture avec les autocollants. Il a tout pris, un habit. Tu sais, le gars, là, il se faisait une collection de toutes les... Vous savez que c'est illégal, on n'a pas le droit. Parce que le sceau, quand vous voyez une voiture de police arriver, quand vous voyez quelqu'un dans un uniforme de police, c'est un sceau qui donne l'autorité. C'est pour ça que cet homme-là a abusé, finalement, de ce que les gens ont normalement face à ces autorités, une croyance. On devient sans défense devant les agents de la paix, mais lui, c'était un agent de la mort. Il s'est déguisé en agent de la paix. Donc, il a pris finalement ici un sceau. Un sceau est aussi un témoignage. Et rappelez-vous, nous sommes scellés du Saint-Esprit afin d'être des authentiques témoignages. Si nous devenons matures dans la foi. Ça, c'est vraiment un point que je veux juste qu'on se rappelle encore une fois. Est-ce que les gens peuvent trouver en vous, dans votre vie, votre manière de vivre, une crédibilité comme un témoin de Jésus-Christ? Paul en était un. Au point que, par exemple, juste vous donner un signe encore, comment. Vous vous rappelez Élie lorsque Israël est chambranlant entre Dieu, Baal, tiens? Et bien, finalement, il les appelle au Mont Carmel, et puis là, il va dire maintenant que le vrai Dieu réponde par le feu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, qu'il soit Dieu. Et c'est là que, tu sais, il y a les deux autels, Baal, la gang de Baal, et l'autel pour Yahweh. Et naturellement, c'est le Dieu d'Israël qui allume l'autel. Donc, ce signe devient un témoignage que Dieu, le Dieu d'Israël, est le véritable Dieu et que Baal est un mensonge. C'est un faux. Maintenant, par conséquent, quand on dit que la foi est fondée sur le témoignage, cela signifie qu'elle n'est pas fondée sur le sens, dans le sens, notre sens naturel, sur le raisonnement naturel ou sur le sentiment naturel. On sent pas ces choses-là. C'est pas quelque chose que je sens, c'est pas quelque chose que je raisonne, c'est quelque chose que je dois entendre par quelqu'un qui est authentique dans son témoignage. Très important ici. Donc, les Écritures sont un témoignage de l'histoire de la création, de la chute et de la rédemption. L'Ancien Testament est l'histoire des étapes préparatoires pour la rédemption. Donc, tout ça, ici, c'est un témoignage que Dieu nous laisse sur l'histoire pour que quand Christ va arriver, les Écritures, parce que Jésus ne voulait pas impressionner les gens par ses miracles, comme souvent ceux qui veulent tromper vont faire. Ils vont essayer de faire des démonstrations qui nous déstabilisent pour devenir une autorité sur notre foi. Jésus-Christ, à toutes les fois qu'il faisait des miracles, c'était pour ramener les gens, par le miracle, aux Écritures, afin que les Écritures, les oracles de Dieu, le témoignage de Dieu à l'égard de Jésus-Christ, deviennent un témoin fidèle sur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur lui-même a appelé finalement une connaissance médiatique à son sujet par les Écritures, par les miracles, par Jean-Baptiste qu'il avait envoyé, et malgré toutes ces choses-là, il dit, vous ne voulez pas croire? Le Nouveau Testament, donc, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu non comme un philosophe. Il n'est pas venu finalement comme un faiseur de miracles non plus. Il est venu comme un témoin. La parole de Dieu le présente comme un témoin. Vous vous rappelez encore pour Nicodème, comment il se présente? Et Nicodème dit, on sait que tu sais, personne ne peut faire ce que tu fais à moins que Dieu soit avec lui. Donc Nicodème lui-même reconnaît jusqu'à un certain point, selon les oracles de Dieu, c'est un théologien, qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. Comme tu sais, mais regardez ce que Jésus lui répond. Il dit au verset 11, Jean 3, 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Avez-vous remarqué ici? On dit ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Jésus vient comme étant le témoin fidèle. Dans l'Apocalypse, il est présenté comme étant le témoin fidèle. Il est venu nous révéler. Il est venu nous témoigner ce qu'il a vu. C'est comme ça que Jean le présente au tout début de son évangile. Regardez, il dit, Jean a rendu témoignage et c'est écrit, et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il est avant moi. Et quel genre de témoignage il donne? Ben, il donne le témoignage que c'est celui qui a révélé la gloire du Père. Il nous a parlé du Dieu invisible. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et à qui le Fils le révèle. Jean travaille beaucoup dans son évangile pour nous montrer Jésus comme étant le témoin fidèle. C'est pas pour rien qu'il l'appelle aussi, c'est vrai, dans son Apocalypse comme étant le témoin fidèle. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de vital. Maintenant, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il rend témoignage. C'est un peu plus loin, là, au verset 31. OK, je vais vous lire. Toujours dans Jean chapitre 3. Je vais vraiment insister là-dessus sur le témoignage. OK? Donc, il dit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » Donc, il parle de lui. « Celui qui est de la terre est de la terre. » Jean-Baptiste, par exemple. Et il parle comme étant de la terre. Il est limité à ce qu'on lui a montré. « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils comme étant le témoin fidèle et véritable, celui qui dit les vraies paroles de Dieu, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et on va essayer de comprendre pourquoi la colère de Dieu demeure sur ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ. Donc, je vais essayer de me suivre mes notes. Regardez bien. De même manière, les apôtres sont aussi des témoins. Jésus leur dit dans Luc 24, 48, « Vous êtes témoins de ces choses, de sa résurrection. » N'oubliez pas, c'est après la résurrection qu'il leur parle, et il va les mandater. Jean rappelle aussi que Jésus dit, « Comme j'ai été envoyé comme témoin, je vous envoie aussi, vous allez être mes témoins. » Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi la vie des apôtres et des premiers disciples, et même encore jusqu'à aujourd'hui, mais surtout les premiers, les témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ, ont eu tous leur vie complètement gâchée. Le Seigneur aurait pu les bénir à ce que les gars seraient devenus des grands prédicateurs dans des grosses maisons, puis bien confortables. Mais non, il a dit à Pierre, « Voici comment tu vas me glorifier. Tu vas rendre ton témoignage à mes ennemis, et je vais leur montrer qu'ils ne veulent même pas me croire quand mes témoins sont authentiques. » Mais comment les témoins de Jésus sont déclarés authentiques? Ils ont gâché leur vie terrestre à rendre témoignage à la vérité. Un menteur, quand il essaie de raconter des menteries, des mensonges, il va le faire à son avantage. Mais quelqu'un qui dit la vérité, il le fait à l'avantage de la vérité, même si c'est à ton désavantage personnel. C'est là qu'on voit un vrai d'un faux témoin. C'est facile de dire des choses, mais c'est au jour de l'épreuve qu'on va voir ton authenticité. Car la force d'un témoin, c'est son authenticité. Lors du premier message à la Pentecôte, Pierre déclare, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. » Pierre va témoigner aussi à Corneille dans sa maison, premier païen qui arrive à la foi. Il dit au chapitre 10, versets 39 à 43, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Un peu plus loin, il dit, Dieu l'a ressuscité des morts après qu'il a été tué par les autorités, mais il a apparu, non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité. Ils ont mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité. Donc, il donne une preuve physique de la résurrection physique de Jésus. Tu ne manges pas avec un fantôme ou avec un esprit. Vous vous rappelez, Jésus a mangé un poisson et du miel pour leur montrer qu'il était physiquement ressuscité. Tous les prophètes, Pierre continue en disant, Jésus nous a ordonné d'aller prêcher au peuple et d'attester, un témoin peut donner une attestation de ce qu'il dit. Il est témoin. Il dit de l'attestation que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Dieu l'a établi le juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes, faisant référence à tous les oracles de Dieu donnés par les prophètes, et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, la grande plainte qu'on faisait à propos des apôtres, c'était que quand ils arrivaient, quand ils donnaient leur témoignage, quand ils allaient prêcher, regardez bien, il dit la grande plainte, ça c'est M. Hodge qui rappelle ça, contre les apôtres, surtout dans les villes grecques, était qu'ils ne présentaient pas leur doctrine, leur enseignement, comme des propositions approuvées. Ils n'ont même pas énoncé les fondements philosophiques sur lesquels ils s'appuient pour tenter de soutenir à la barre de la raison ce qu'ils déclaraient. La réponse donnée à cette objection par Paul est double. Premièrement, cette philosophie, la sagesse des hommes, s'est révélée tout à fait incompétente pour régler le grand problème de Dieu et de l'univers. Le problème du péché et de la rédemption. Ce n'était en fait ni plus ni moins que de la folie. Toute la philosophie humaine là, amène à rien. En ce qui concerne toutes les spéculations sur les choses de Dieu. Deuxièmement, les doctrines ou les enseignements que Paul enseignait n'étaient pas des vérités découlant de la raison, de sa propre raison. C'est pas quelqu'un qui s'est assis comme, on va dire, je sais pas moi, Platon, Socrate, Aristote, pour réfléchir sur les choses, pour former. Non! Il enseigne, son enseignement était basé sur la révélation que Jésus-Christ lui a donnée, de sa résurrection et des Écritures. C'est pas un gars qui s'est mis à réfléchir tout seul, non, c'est quelqu'un qui va donner un témoignage de la révélation que le Seigneur lui a donnée. Les apôtres n'étaient pas des philosophes. Ça, c'est une déclaration intéressante que Blaise Pascal a un moment donné, là, le Seigneur l'a vraiment éclairé. Il avait un certain fondement biblique dans sa vie, parce que c'est un chrétien, mais jusqu'au jour où il est devenu vraiment enfant de Dieu, et là, il a réalisé, c'est pas le Dieu des philosophes, mais d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des témoins, pas des gens qui fabulent, qui réfléchissent, puis qui font toutes sortes de choses très fascinantes, peut-être pour l'intelligence humaine, mais c'est pas là-dessus que Dieu bâtit notre foi. Donc, c'est pas le Dieu des philosophes, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, c'est pour ça ici qu'il nous est dit que si on reçoit le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Là, on approche pourquoi Dieu est en colère pour ceux qui vont rejeter son Fils. Le témoignage que Dieu donne de son Fils, c'est « Voici le salut. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, Jean nous dit dans sa première lettre. Quelqu'un qui rejette le témoignage de Dieu sur Jésus-Christ dit carrément, Dieu est un menteur. Quand vous donnez finalement un témoignage de ce qui vous est arrivé, et que la personne vous écoute, après vous dit, je te crois pas. Quand tu dis à quelqu'un, je te crois pas de ce que tu me dis, tu es en train de déclarer à la personne, tu es un menteur. Dire à Dieu que c'est un menteur, c'est pas une bonne chose. Donc, il y aurait tellement à dire là-dessus, mais je vais juste arriver avec la conclusion. Le motif sur lequel nous sommes autorisés et commandés à croire n'est pas la conformité de la vérité révélée à notre raison, ni son effet sur nos sentiments, ni sa satisfaction des nécessités de notre nature, de nos conditions, ça devrait toujours reposer sur « Ainsi parle l'Éternel. Ainsi Dieu dit les choses. » Donc, ça n'a pas rapport avec moi. C'est pas moi qui va décider si je reçois sur mon raisonnement la base du témoignage qu'on me donne. C'est sur l'authenticité du témoin qui me dit la vérité. Les vérités de la révélation biblique se recommandent à la raison. C'est comme un enfant, il apprend à recevoir des notions qui vont nourrir sa raison. Là, la raison va commencer finalement à raisonner sur un témoignage sûr. Donc, la révélation, les vérités de la révélation biblique se recommandent à la raison. Elles affectent puissamment et légitimement aussi nos sentiments d'angoisser, d'avoir peur, d'être rejeté. J'entends que Dieu me donne en Jésus-Christ la paix. Il fait la paix avec moi. Je suis plus en guerre avec lui. Malgré ma nature, Dieu a réglé le problème en Jésus-Christ. Dans sa chair, il règle le problème de ma chair. Alors, je peux trouver la paix avec Dieu. Mes sentiments peuvent trouver un réconfort énorme dans la révélation biblique à cause que Dieu a dit. Il répond à toutes les nécessités de ma nature. Il dit qu'il va pourvoir à tous mes besoins et surtout aux besoins de la vie quand la mort s'en vient. Il va vraiment être le fidèle et le véritable qui va me rassurer sur toute la nécessité de ma nature en tant que créature et aussi en tant que pécheur. Il a vraiment pris tout ce que je suis pour vraiment me rassurer en me donnant le témoin fidèle qui a accompli une œuvre que lui seul pouvait accomplir. Et donc, c'est pour ça que je dois demeurer sur ce fondement. Le fondement de l'œuvre accomplie de Christ, qui va produire une foi, qui va nourrir, la vérité biblique va nourrir ma raison, va nourrir mes sentiments pour me donner la paix et la joie, et aussi va bâtir une espérance afin que je ne sois pas abattu dans le désespoir, ce qui va motiver donc cette espérance qui est future, qui ne peut pas me tromper, bâtie sur une foi certaine à cause des témoignages sur les témoins et les témoins sur. Qu'est-ce que ça produit entre les deux? Un comportement de reconnaissance. Je suis quelqu'un qui devient extrêmement reconnaissant et je trouve de plus en plus mon plaisir dans la volonté de Dieu et non pas dans les raisonnements en dehors de la révélation biblique. C'est pour ça que le croyant devient zélé pour les bonnes œuvres. C'est un fruit et le fruit n'est pas ce qui nourrit l'arbre, c'est la racine. On est enraciné dans sa grâce. On demeure ferme dans cette grâce, ce qui produit une sève, sa parole. Sa parole est la vérité, ce qui va faire que nos vies vont être transformées, notre raisonnement, notre perception, nos sentiments vont produire un amour véritable qui va faire qu'on va pousser plus loin. Et malgré les échecs qu'on a et qu'on les autres vont avoir, le pardon va être beaucoup plus facile chez le croyant que le non-croyant. Car si j'ai été l'objet d'un amour si grand et d'un si grand pardon, qui suis-je pour refuser à mon frère qui me demande pardon le pardon? Donc, les vérités de la révélation biblique se recommandent à la raison. Elles affectent puissamment et légitimement nos sentiments. Ils répondent à toutes les nécessités de notre nature en tant que créatures et pécheurs. Et ces considérations peuvent nous inciter à croire, fortifier notre foi, nous conduire à chérir notre foi, et à rendre joyeuse notre foi et efficace. Mais elles ne sont pas le résultat de la raison naturelle ou des émotions. Nous croyons au témoignage de Dieu. C'est un point d'une grande importance et c'est très pratique. Parce que si la foi ou notre persuasion des vérités de la Bible repose sur des motifs philosophiques, alors il y a une porte qui est ouverte en moi pour le rationalisme. Et je peux me perdre. Si l'importance pratique de ma foi repose sur mes sentiments comme origine à ma foi, alors j'ai ouvert une porte au mysticisme. Le seul fondement sûr et satisfaisant est le témoignage de Dieu, qui ne peut pas, d'abord, lui se tromper, et il n'est surtout pas là pour nous tromper. Il est impossible que Dieu nous mente. Donc, c'est pour ça qu'ensemble, recherchons continuellement de se nourrir de sa parole, la parole d'un témoin fidèle. Donc, la foi peut en définitive, comme la persuasion de la vérité fondée sur le témoignage. La foi du chrétien est une persuasion de la vérité des faits et des doctrines enregistrées dans les Écritures sur le témoignage de Dieu. Et nous, s'en nourrissant et vivant par la foi, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des témoins authentiques. Vraiment, c'est le but. Que Dieu nous bénisse et qu'on puisse faire briller sa lumière de son témoignage sur nos vies pour qu'on puisse en parler et le manifester à un monde qui se perd dans des fausses croyances. Un seul chemin, Jésus-Christ.